RMC.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
Et j'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
After Marseille,
Thibaut Giangrande.
Salut mes Marseillais, comment ça va? Bienvenue dans l'After Marseille, le podcast qui débat de l'actu de l'OM toutes les semaines, dispo sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles si vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi toujours commenter ou noter vos épisodes. L'équipe du jour, et je vous le dis, elle bougera pas au mercato. Florent Germain, en direct de Marseille. Salut Flo.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et coach Courbis, salut mon Roland.
Salut les amis.
C'est la trêve. Gattuso a enfin un peu de temps pour travailler avec ses joueurs, mais c'est surtout la cellule de recrutement qui s'active. Quels sont les besoins pour cet hiver? L'OM doit-il recruter massivement à partir du 1er janvier? C'est notre débat de la semaine. Et on en parle aujourd'hui parce que le président lui-même en a parlé, a lancé le sujet cette semaine. Pablo Longoria qui t'a accordé une interview exclusive, Flo, vous l'avez entendu sur RMC. Écoutons ce qu'il dit précisément.
Mais d'ailleurs, au passage, ouais, bravo pour l'interview.
Voilà.
Bravo. Merci coach.
Bravo Flo. Écoutons ce qu'il a dit particulièrement du mercato d'hiver à venir, Pablo Longoria, au micro de Florent Germain.
On a analysé avec les coachs les différents besoins qu'on pouvait avoir. On va analyser avec notre équipe de scouting dans ce moment. Et avec tout ce travail ensemble et avec l'analyse financière des différentes opérations, on cherchera de donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter cet effectif. Que c'est vrai que pour les besoins du coach dans ce moment, dans quelques positions, on a besoin numériquement. Il y a une discussion comme lesquelles que peut-être les cas sur le latéral gauche ou au commencement de la saison pour le style de jeu de Marcelino, il avait une confiance énorme sur Emran Sorlo. On doit chercher de se renforcer parce qu'à niveau numérique, c'est vrai qu'on doit donner un peu de souplesse à Renan Lodi, mais c'est vrai pour augmenter la compétitivité entre les différents joueurs de l'effectif que c'est nécessaire. Ça, c'est un manque numérique qu'on a dans l'effectif aujourd'hui.
Voilà pour l'extrait, un extrait de cette longue interview de Pablo Longoria, interview exclue RMC. Déjà Flo, raconte-nous le contexte de cette réponse. Il cible clairement le latéral gauche ou latéral gauche. C'est vraiment la priorité pour lui en tout cas.
Non, alors après il évoque le cas, on y reviendra, d'un ailier aux caractéristiques un petit peu différentes par rapport à ce que Gattuso a à sa disposition dans l'effectif. On pourra détailler ça. Donc il a ciblé effectivement deux postes, le poste d'ailier et le poste de latéral gauche. Ça peut surprendre, mais il l'explique et dans l'interview il y a un petit passage qu'on n'a pas entendu où il dit qu'en fait que Emran Sorlo, faut pas oublier que c'est un joueur qui est né en 2005, il a 18 ans. Donc effectivement Marcelino avait un petit coup de cœur par rapport à ce joueur-là parce que aussi il a un profil très offensif et Gattuso lui aimerait un profil un petit peu différent. Je pense pas que ce soit une remise en cause de Renan Lodi. C'est simplement que le fait de moins compter sur Sorlo décalait parfois Murillo côté gauche quand donc Lodi ne jouait pas, alors que faut voir plusieurs choses. C'est un peu un jeu de chaises musicales. Je pense que si Murillo fait l'affaire de temps en temps, ça permettra déjà à Klose de souffler, parce que Klose, il a beau être plutôt bon avec les sollicitations au niveau international, c'est pas une machine, donc à un moment donné, il va peut-être avoir une baisse de régime. Et je pense que Gattuso aime beaucoup le profil quand même de Klose et sa capacité parfois, en cours de match, à jouer un cran plus haut. Donc avoir un Murillo à droite, Klose un cran plus haut de temps en temps, je dis pas à tous les matchs et encore moins dès le début des rencontres, mais je pense que c'est quelque chose dont Gattuso s'est privé sur certaines rencontres et ça l'a un petit peu pénalisé. Donc faut pas voir ça vraiment. Je pense que le Brésilien Lodi, il a un petit coup de moins bien depuis quelques matchs. Il avait fait un bon début de saison, mais l'OM garde quand même confiance en lui. Ils veulent simplement un complément pour que la rotation, et comme il l'a dit, non pas la compétitivité mais la concurrence, soit peut-être plus forte au sein de l'effectif.
Alors l'intégralité de cette interview sur rmcsport.fr. Concernant Murillo, il en parle aussi à Longoria dans cette interview, il dit qu'il commence justement à bien s'adapter. Roland, est-ce que t'es étonné que ce soit ça la priorité, un latéral gauche et un ailier?
Si tu veux, déjà c'est difficile de rentrer dans tous les détails, et Dieu sait que cette interview, je l'ai écoutée, je dis une fois de plus bravo à notre ami Flo, parce que pratiquement toutes les questions que l'on se pose et que l'on réfléchit, c'est... Donc, je suis un petit peu emmerdé parce que j'ai rien à rajouter. Si ce n'est que si je peux me permettre un conseil, c'est déjà une évidence ce que je vais dire, il faut quand même garder son calme. Cette saison, elle est quand même préoccupante. Donc il y a deux objectifs, plus un troisième qui va arriver avec la Coupe de France. La Coupe de France, c'est un des gros regrets, pas seulement de la saison dernière, des 25 dernières saisons, ce qui s'est passé la saison dernière. Et là, maintenant, ben, il faut penser qu'il y a un effectif à améliorer, que ce soit pas seulement la qualité, mais en quantité aussi, de voir aussi quel profil il va falloir prendre, pas simple du tout. On parle de Sanchez, alors c'est peut-être une connerie que je vais dire, mais ça ne sera pas la dernière, hein, ni la première. Et Sanchez, on ne peut pas essayer de voir ce qui se passe. Là, il a pas mal au cul d'être assis sur le banc.
C'est vrai que l'Inter, bon, il est remplaçant et encore, il ne rentre pas à chaque fois. Il a mis un petit but cette saison en Ligue des Champions. Bon, le problème, Flo, sur Sanchez, c'est que le salaire de Sanchez, il va dans la poche de Aubameyang désormais. Hein.
Bah, c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est-à-dire que déjà, à la base, avant même la fin de l'été, donc j'avais eu cet échange avec les dirigeants de l'OM sur une fois qu'Aubameyang, parce que quand Aubameyang a signé, on continuait à se poser la question si Alexis Sanchez allait pouvoir venir. Et déjà financièrement, on expliquait que c'était quand même compliqué maintenant que Aubameyang était venu avec un gros salaire. Et puis après, on m'avait dit clairement au sein de l'OM, on veut pas non plus d'une attaque avec deux joueurs qui feraient 70 ans à eux deux. Ça le fait pas. C'est pas ça. Bon, Alexis Sanchez, il a beau avoir son âge, c'est quand même un excellent joueur. Alors tu poses la question à un convaincu en plus, Thibaut, parce que enfin ou Roland, Alexis Sanchez, je veux dire tous les jours, on va le chercher s'il faut à Milan où il sera. Mais financièrement, ça me paraît totalement inenvisageable.
Alors moi, il y a une précision que je rajoute à ce magnifique interview, c'est en ce qui concerne Aubameyang. Chacun a sa vision des choses. Premièrement, moi, je pense que on ne doit pas penser que c'est cuit. Il a pour moi la possibilité encore d'être très utile. Je ne dis pas utile, d'être très utile. Et ensuite, arrêtons, puisque les chiffres, on en fait ce qu'on en veut en fonction de la présentation. Quand tu as 700 000 euros par mois, mais évidemment que c'est un gros salaire par rapport à tous les métiers qu'il peut y avoir. Et si, par exemple, au lieu d'avoir étalé avec les mensualités, on avait mis une prime à la signature compte tenu qu'il n'y a pas de transfert et un salaire de 400 ou de 450 000, là, on ne parlerait plus du salaire d'Aubameyang. Merde!
Flo,
exactement. Non, mais je suis ressorti aussi de cette interview et honnêtement, je le dis avec sincérité, je comprends la position de Pablo Longoria, notamment concernant les attaquants. C'est-à-dire que puisqu'on est dessus là, qu'est-ce qu'on fait? On va empiler les numéros 9 à l'OM et du coup encore plus bloquer une éventuelle progression de Vitinha et un éventuel déclic pour Aubameyang. Aubameyang, l'OM croit encore en lui. L'OM se dit, attends, il y a un an et quelques mois, il enfilait les buts au FC Barcelone. Donc, il faut comprendre cette position-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui se disent, attends, il faut un attaquant, c'est pas possible, ça marche pas. C'est trop facile. C'est-à-dire que si ça tourne autour d'eux et autour de lui, puisqu'on parle d'Aubameyang, normalement, il va pas oublier ses qualités de buteur.
Moi, en tant que passionné, et évidemment que Marseille, ça me laisse pas indifférent, je suis plus inquiet, moi, d'Ndiaye et de son prix par rapport à ce que je vois, plutôt ce que je ne vois pas, que de Aubameyang et Vitinha. Arrêtons avec ces 32 millions de Vitinha. Il a signé 5 ans, divise-les par 5 et tu nous emmerdes plus. Quand je dis ça,
surtout que c'est 32 bonus inclus.
Mais ma foi.
Mais ça reste quand même le transfert plus cher de l'histoire de l'OM, malgré tout, Roland.
Mais non.
Si les bonus sont.
Mais moi, si par exemple vous pensez qu'un salaire, c'est pas de l'argent, eh bien à ce moment-là, c'est le transfert de tous les temps, donc de l'Olympique de Marseille. Mais si par exemple, on t'explique que lui, son salaire, c'est entre 150 et 200 000, et que c'est 32 millions divisé par 5 ans, eh bien ça va.
regardons plutôt que pour le moment c'est insuffisant. Ne rajoutons pas sur son problème qui fait le plus qu'il peut faire, mais pour le moment c'est trop moyen. Oui. Eh ben ça va, on va pas lui rajouter son salaire.
Alors,
aussi.
Juste sur le constat pour conclure sur les attaquants, et après je veux t'entendre plus en détail sur Ndiaye notamment, Roland.
Ben, Ndiaye, excuse-moi Plo, j'ai bien entendu que c'est 17 millions.
Oui oui.
Bah, mais c'est ça le transfert le plus cher de l'OM.
On n'a pas non plus tous les chiffres précisément, notamment le détail des bonus, mais je fais une parenthèse là-dessus et je sais que coach va forcément être d'accord puisqu'on en avait parlé ensemble, je trahis pas de secret. C'est vrai que le prix de Vitinha, alors je comprends que ça fasse tiquer et qu'on lui colle cette étiquette, mais il y a des présidents qui ont signé Strootman et qui n'ont jamais fait de mea culpa. Et pourtant Strootman c'était une catastrophe industrielle. D'accord, puisque on était sur un transfert bonus inclus de quasiment 30 millions d'euros et un salaire énorme qui a frôlé l'indécence par rapport au temps de jeu effectué au contrat de 5 ans de Kevin Strootman,
qui a bloqué l'OM pendant
très longtemps et que Pablo Longoria a traîné comme un boulet. Donc
lui, le transfert,
je pense que c'est important de le rappeler.
25 millions. Hein.
Mais juste pour conclure sur ces attaquants, Roland là en janvier. Ouais. On touche pas à l'attaque de l'OM. On cherche pas un nouveau numéro 9.
Je te dis pas le contraire.
Non, c'est une question que je te pose.
Il va falloir, pour le moment, nous avons 3 joueurs sur 4, qui sont trop moyens.
Donc qui?
Correa, Ndiaye, et Sarr.
Donc qu'est-ce qu'on fait eux? Tu crois moins en eux qu'Aubameyang? Faut chercher des alternatives.
Non, je te rajoute, numéro 9. Celui qui m'inquiète le moins, et c'est emmerdant quand même, c'est Aubameyang.
Ouais. Flo.
Non, mais c'est important donc de rappeler, d'aller sur la deuxième priorité, on va dire, et je pense que même c'est la priorité, hein, on va pas dire deuxième, puisque le latéral gauche, imaginons l'OM trouve pas le joueur idéal, bah peut-être qu'il y en aura pas, ou peut-être qu'ils feront avec Solo. Je pense pas que ce soit la priorité des priorités. En revanche, un ailier aux caractéristiques qui conviennent à Gattuso, je m'explique. Gattuso, il veut faire jouer Harit dans l'idéal en numéro 10.
Dans un
4-2-3-1.
Je pense que c'est le meilleur poste pour Harit.
On est d'accord. 4-2-3-1, Harit en 10. Avec également Ndiaye dans cette position. Ndiaye préfère jouer dans l'axe. Il est un peu moins à l'aise sur le côté. Là où il a explosé, c'est quand il était dans cette position axiale. S'il y a un ailier fort qui arrive, c'est un petit aveu d'échec quand même pour Sarr ou Correa qui n'ont pas fait véritablement l'affaire pour le moment. Ce serait un visage totalement différent pour l'OM. C'est pour ça que ça devient un enjeu fort de ce mercato hivernal. D'ailleurs, Pablo Longoria a eu l'honnêteté de dire que, des fois, il le fait pas de dire les postes où il recherche. Là, il l'a dit.
Oui, c'est ça.
Arrière gauche et ailier aux caractéristiques différentes. Ce sont des caractéristiques, un, avec un volume de jeu, assez important, parce que le problème quand tu mets Sarr et Correa dans un 4-2-3-1 ou Ndiaye sur un côté, ils ont peut-être pas la caisse qui permet de défendre et de tenir le fait que tu as que deux milieux.
Sarr des trois que tu viens de dire, je trouve quand même que c'est le moyen qui est
un peu plus. Voilà, exactement. Sarr là, et qui est des qualités quand même de buteur, parce que il faut qu'il y ait un joueur capable. C'est pour ça que je dis que c'est un petit désaveu pour Correa, parce que Correa, il aurait dû avoir ce profil sur le côté gauche, peu dribbleur, habitué à jouer dans l'axe.
Sarr côté gauche et qui rentre vers l'intérieur et qui ouvre le couloir à l'Audi, c'est pas mal non plus, j'ai déjà vu pire.
Exactement. Donc pour moi, si tu trouves effectivement un bon ailier qui correspond au jeu de Gattuso, comme on l'a expliqué, dans le système qu'il veut mettre en place, qui soit un peu plus buteur aussi,
c'est là que tu regrettes pas seulement Sanchez, tu regrettes Under. Parce que si par exemple tu as un quatuor offensif, Under à droite, Sanchez, Harit en rentrée de Sanchez et Sarr à gauche, c'est pas mal.
Et là tu ne mets pas Aubameyang alors dans ce système.
Eh bien non, pratiquement le seul que j'ai gardé c'est Sarr, et encore je ne le fais pas jouer à droite, mais quand je dis jeu, c'est ma vision.
Bien sûr.
C'est pas obligatoirement la bonne, mais bon, c'est la mienne.
Flo, j'imagine que c'est un peu tôt pour savoir quelle sera la marge de manœuvre de l'OM en janvier là pour le mercato.
Oui, j'ai pas de chiffres et j'ai posé la question à Pablo Longoria, il n'en a pas donné non plus. Il a juste assuré dans cette interview que oui, l'OM avait mis des moyens parce que Marseille espérait être en Ligue des Champions. Oui, ce serait beaucoup mieux, c'est une évidence que l'OM soit dans les 4 ou dans les 3 pour
envisager l'avenir, mais qu'ils n'étaient pas allés au bout du budget et qu'ils avaient encore une petite marge. Je ne sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas de combien est l'enveloppe, mais j'ai eu le sentiment qu'on avait quand même un Pablo Longoria encore combatif, qui a des idées et qui est dans son domaine. Parce que je fais une petite parenthèse là-dessus, Pablo Longoria, il a tellement, on a tellement parlé de lui concernant les coulisses, concernant les crises, concernant de l'extra-sportif, que son œil brillait un petit peu plus quand on lui reparlait sportif et surtout de mercato. Donc, je pense qu'il est animé. Et là, je réponds pas à ta question sur le budget, mais il est animé d'un sentiment de revanche et il a envie de prouver qu'il a encore des bonnes idées et que s'il faut mettre un petit peu de moyens, bah, il saura trouver peut-être. Le coup à faire cet hiver.
Et ça, Roland, il va avoir aussi gros à jouer à ce mercato-là en fonction des recrues, parce que quand on regarde les derniers mercato, là, c'est quoi pour toi, Roland, le dernier bon coup fait par Longoria ? Parce qu'on en a beaucoup parlé de ces bons coups. Bah, là, tu regardes le dernier mercato, c'est Aubameyang, la tête de gondole, celui d'avant, c'est Vitinha.
J'ai pas en tête, je veux bien répondre à ta question, je veux pas répondre à une question qui ne m'est pas posée, mais quand même. Donc chacun sa vision des choses, tu sais très bien le nombre d'amis d'enfance que j'ai qui sont tous passionnés de football et qui m'appellent justement parce qu'ils sont inquiets et tout, j'essaie de les rassurer, mais des fois je leur dis, bon attention, on est à l'OM. L'OM c'est où tu es dans les quatre derniers, où tu es dans les quatre premiers, où tu es dans les quatre derniers. Et là, pour le moment, il y a de quoi être préoccupé. Par contre, si on veut s'amuser à revenir à la source des problèmes d'aujourd'hui, on peut m'expliquer ce qu'on veut. Les problèmes d'aujourd'hui, ils viennent de la troisième place de la saison dernière. Donc, et quand je pense à l'effectif de la saison dernière, qu'on est capable de perdre 23 points à domicile avec ce stade Vélodrome qui a 65 000 spectateurs, et qu'on perd contre Annecy, et qu'on n'arrive pas à terminer second, derrière ça, tu te prends le tour préliminaire, tu te prends deux coups de marteau sur la tête, et ça vient de là, le problème. L'utilisation de Payet, quand tu as la chance d'avoir un Payet, eh bien, qu'il ne soit pas titulaire, on s'en fout, mais qu'il se chauffe pendant une heure et qu'il rentre à 30 minutes de la fin, je pense que ça a été un gaspillage abominable de l'entraîneur de la saison dernière. Alors, quand moi, je ne suis pas bon ou je n'étais pas bon, on ne me faisait pas de cadeaux. Quand, par exemple, on fait des cadeaux à quelqu'un qui n'a pas été bon, eh bien, je rectifie.
Et ce sera le mot de la fin, coach. Merci. Merci, coach. Merci, Flo. Bonne soirée,
merci
les gars.
Les amis. On en reparle. Hein. L'avantage, c'est que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir.
On a posé les bases et on va.
Avec plaisir, Flo.
Eh oui, avec grand plaisir. Merci, les gars. Merci.
La bise, les amis. Ciao.
À Jérôme et à Toto et à Suzanne en régie. Merci surtout à vous. Surtout d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao, tout le monde.
RMC After Marseille.